Bonjour à tous et à toutes.
Désolé d'être un petit peu en retard là, ce matin pour adorer le Seigneur, puisque c'est pour cela que le Seigneur a mis ce jour à part, ce jour de repos, le septième de la création. Et c'est pour cette raison que nous avons des semaines de sept jours, puisqu'il y a eu six jours pour la création et un septième jour de repos. Et c'est pour ça que lors de la Révolution française, on arrive bientôt au 14 juillet, on a fait des semaines de 10 jours et les animaux ne supportaient pas ça, les fermiers non plus. On a été obligé de revenir la semaine de 7 jours avec un jour de repos. Je ne sais pas si vous savez ça, mais c'est intéressant à le voir. Alors nous étions hier à un mariage près de Niort, dans la chaleur de vendéenne, enfin ou Poitevine plutôt, c'était très agréable d'être avec des frères et des sœurs en Christ. Et le prédicateur là-bas, qui a prêché, nous a parlé des couacs de la vie chrétienne. Et puis il a indiqué qu'il y avait un couac qui s'est passé juste pour la cérémonie de ce mariage où nous étions, puisque le prédicateur n'a pas pu prêcher parce que sa femme a couché au même moment. Et puis il a cité un certain nombre de couacs comme ça qui arrivent. Ça nous montre que le Seigneur a sa haute main sur tout, hein, sur ses enfants, sur ceux qui ne l'appartiennent pas. C'est lui qui donne la vie, c'est lui qui la reprend. Et nous avons eu un couac ce matin, c'est que notre voiture, qui a été révisée il n'y a pas longtemps, etc., n'a pas pu démarrer. Ce qui a permis de voir deux voisins de la famille Christie, puisque nous étions hébergés par la famille Christie, pour ceux qui connaissent Edouard et Sylvia Christie. Et on aura certainement des contacts avec encore des voisins, dépanneurs, mécaniciens. Qu'est-ce que le Seigneur a pour nous dans cette panne? On ne sait pas. On ne sait même pas, Albert, si nous allons pouvoir rentrer demain soir. Et c'est pas grave, c'est entre les mains du Seigneur. Attendons-nous à de grandes choses de la part du Seigneur. Je vous avoue franchement que depuis, avec les épreuves que j'ai eues de santé, cancer, etc., j'apprends lentement à regarder les choses différemment, surtout quand les choses ne vont pas comme j'aimerais ou comme j'avais prévu. Au début de ma vie chrétienne, c'était pas ça, hein, je vous l'assure. Ça me contrariait qu'il y ait des choses qui ne marchent pas comme je le souhaitais. Vous avez lu en lecture ce matin, en lecture en assemblée, 2 Timothée chapitre 3, et je voulais juste signaler, je l'avais déjà fait dans des mois précédents, que à l'occasion de conversations avec des personnes, et j'espère que vous avez beaucoup de conversations, même que vous suscitez des conversations avec des gens qui vous entourent, qui manifestement pour la plupart ne sont pas sauvés, pour essayer engranger la conversation et l'amener à un moment ou à un autre vers l'annonce de l'Évangile. Je me suis trouvé souvent avec des personnes qui me demandaient, mais où va le monde? Qu'est-ce qui se passe? Et j'ai pris souvent, j'ai fait un texte ici, qui est intitulé ici « News », les nouvelles. Vous savez, comme les nouvelles qu'on entend à la radio à toutes les heures sur France Info ou le soir à 20h sur les chaînes de télévision. Et ça commence par « Les hommes égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs ». Donc c'est 2 Timothée chapitre 3, mais j'ai enlevé les premiers mots qui disent « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Je le réserve pour après. Et donc, je lis ce texte à des personnes qui me posent la question, qui me disent « Mais où va le monde ?» Et je leur lis ça, et je leur dis « Est-ce que vous avez l'impression que c'est d'actualité ?» Et ils me disent « Ah, mais c'est une description parfaite des temps dans lesquels nous sommes. » Et je dis « Mais en fait, je ne vous ai pas tout lu. » Parce que ça vient d'un texte qui n'est pas très récent. Vous avez une idée? Et les gens me disent, ben non, je sais pas, ça vient du Nouvel Observateur. Non, ça vient d'un observateur, mais qui a écrit ça il y a 2000 ans. Et donc je mentionne la parole de Dieu, je dis, étonnamment, hein, la parole de Dieu. Mais ça commence pas exactement par les hommes égoïstes, amis de l'argent, etc. ça commence par « sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles ». Et donc, ces paroles que j'ai à plusieurs reprises essayé de développer pour leur faire comprendre que dans les derniers temps, dans la parole de Dieu, ça fait référence au retour de Jésus-Christ. Et donc, bien sûr, ça m'amène à leur annoncer l'Évangile, à les encourager à se mettre en règle avec Dieu, ou à connaître Dieu, à se mettre en règle avec lui. Donc, si ça vous intéresse, puisque j'ai mis un peu cette méditation par écrit, si ça vous intéresse d'avoir ça, de méditer ces choses, peut-être l'utiliser vous-même, ou si vous vouliez en faire des copies, le distribuer, je le laisse à votre disposition, je peux vous laisser le fichier, ce sera avec joie. C'est un sujet qui est de plus en plus d'actualité, hein. Où est-ce que va le monde, avec toutes les choses qui se passent autour de nous. Alors ce matin, je voudrais continuer sur un thème que j'ai abordé il y a un mois, je ne sais pas si vous vous souvenez. En fait, nous l'avons chanté dans le 251 au Fils de Dieu quand ta lumière se termine par « Et bientôt, tu vas revenir. Je te verrai, joie infinie, toi mon sauveur, mon Dieu, ma vie. » Et là, il y a une espérance. Et même une joyeuse espérance, une attente de voir le Seigneur, une attente dans la joie, malgré les épreuves, les difficultés que nous connaissons tous. Dans la mesure où on connaît le Seigneur Jésus, on l'a rencontré, même dans les épreuves, ne serait-ce que dans la perspective de le revoir, de le voir, de passer l'éternité avec lui, dans sa présence, de voir sa gloire, d'être émerveillé par sa gloire qui est bien au-delà de ce que les Écritures nous révèlent, ou en tout cas de ce que nous en comprenons. Ça, c'est un sujet de joie. Et là, on va parler de la joie ce matin. Alors, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu en 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 16. Nous allons lire un verset très long de trois mots. Je vais juste introduire un petit peu le sujet. Vous rappelez peut-être, si vous n'étiez pas là, comme ça vous aurez quelques informations sur ce que j'avais prêché il y a un mois environ, ou un peu plus, je ne me souviens plus. Et si vous étiez là, ça va vous remettre un petit peu dans le bain. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, donc c'est dans les derniers versets de cet épître de Paul aux Thessaloniciens. Si vous avez étudié le livre des Actes, et je vous encourage à étudier le livre des Actes, notre frère Albert qui est là, qui vient du Pays Basque aussi, qui donnera son témoignage cet après-midi, je crois, et il étudie le livre des Actes avec un double décimètre. Je ne sais pas si vous avez déjà étudié le livre des Actes avec un double décimètre ou un triple décimètre. C'est important. Je l'avais jamais fait moi-même avec un double ou un triple décimètre, et en fait il m'a appris quelque chose sans le savoir. En fait il mesure les distances parcourues par Paul et Silas, Paul et Barnabas, il les rapporte sur l'échelle de la carte et il essaie d'évaluer le temps qu'il a fallu pour à pied ou en bateau faire le trajet et essayer de s'imaginer ce qui s'est passé. Et donc, Paul, comme vous savez, dans son deuxième voyage missionnaire, a visité la ville de Thessalonique. Il a démarré une assemblée là-bas. Et puis, quelques temps après, il a écrit aux Thessaloniciens, vraisemblablement depuis Corinthe. Et dans cette première lettre, cette première épître aux Thessaloniciens, à la fin, au verset 16, chapitre 5, verset 16, Paul dit aux Thessaloniciens, soyez toujours joyeux. Et les Thessaloniciens sont passés par des grandes épreuves, ont été persécutés. Mais Paul, qui a été persécuté aussi, leur dit, soyez toujours joyeux. Et on a d'autres passages comme Philippiens chapitre 4, verset 4, que j'avais cité précédemment, qui nous dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et si je me souviens bien de mémoire, mais je vais le reprendre dans Philippiens 4, ici dans ma Bible, Paul dit, je le répète, réjouissez-vous. Et j'avais mentionné aussi ce verset dans Matthieu chapitre 5, c'est-à-dire dans le serment sur la montagne. C'était au début du ministère du Seigneur Jésus, parmi les 12 disciples. Dans le serment sur la montagne, au chapitre 5 de Matthieu, verset 12, dans un contexte de persécution, où Jésus parlait de la persécution, il ne vivait pas la persécution, mais il parlait de persécution, il leur disait « Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse ». Alors ces passages nous parlent de joie, inévitablement, de se réjouir, et même on peut dire, puisque ce sont des impératifs, ils nous exhortent à la joie, à cause de qui est Jésus et de ce qu'il a fait. Alors ces passages, je suis persuadé que si vous les avez lus et relus et médités, si vous êtes arrêté dessus, ou même si vous êtes passé rapidement dessus, comme on peut le faire chacun, sont des passages qui nous interpellent et qui peuvent nous déranger. Parce qu'il n'est pas facile pour nous, pécheurs, je ne sais pas si quelqu'un me contredira, mais n'hésitez pas, si vous pouvez me contredire. Mais il me semble que pour nous, pécheurs, il n'est pas facile de mettre en pratique, de pratiquer la joie, de se réjouir constamment dans le Seigneur. En fait, cette joie dans la vie chrétienne est liée à un mot donc, que j'avais évoqué, c'est le mot enthousiasme. Et c'est un mot qui est intéressant, qui a comme synonyme enthousiasme, c'est l'entrain, l'ardeur, selon le dictionnaire, hein, l'engouement, l'allégresse, le zèle, la flamme, la joie, le feu, l'emballement, la passion, tout ça c'est des mots un peu synonymes. Et la joie est un aspect justement de l'enthousiasme. Et on trouve ces mots synonymes du mot enthousiasme et proche de la joie aussi, aussi bien dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, on trouve ce mot décrivant l'attitude, le cœur de serviteur de Dieu de l'Ancien comme du Nouveau Testament, même avec les épreuves. Si on revient à la définition du dictionnaire, par exemple pour le mot enthousiasme, le dictionnaire nous dit que c'est une émotion intense qui pousse à l'action, une émotion qui pousse à l'action. Une action dans la joie, et en fait, l'étymologie du mot enthousiasme, c'est en, comme le en français, tout c'est la racine grecque théos, Dieu, donc en Dieu, et le suffixe asme, ou yasme, qui va parler donc littéralement d'un élan, d'un transport en Dieu. Alors, dans le contexte de la vie chrétienne, l'enthousiasme, ça n'est pas autre chose qu'une attitude avec des actions qui résulte du fait d'être en Dieu et de demeurer en Dieu. Et vous vous souvenez que Jésus lui-même, dans l'évangile de Jean, donc rapporté par Jean, en Jean chapitre 15, verset 4, nous avons cette exhortation de Jésus, où Jésus dit « Demeurez en moi ». Demeurez en moi. Alors, il n'est pas étonnant que la joie soit et l'enthousiasme soit lié à la relation que nous avons avec Dieu, avec le Seigneur Jésus, et avec la façon dont on entretient, ou la qualité de l'entretien de cette relation. Plus cette relation va être étroite avec le Seigneur, plus elle va progresser, et on nous exhorte à marcher de progrès en progrès dans la vie chrétienne, plus la joie, l'enthousiasme, la joie devrait s'exprimer. Et il n'est pas étonnant d'ailleurs que la joie soit un des éléments qui apparaît dans la liste des fruits de l'Esprit. Les fruits de la présence du Saint-Esprit dans un chrétien, dans une personne. Excusez-moi, permettez-moi de redire cela. Parce qu'aujourd'hui, le mot chrétien, on l'emploie à toutes les sauces et ça ne veut plus rien dire. Parce qu'il y a des chrétiens, bien sûr, qui se disent chrétiens, des gens qui se disent chrétiens, et dont la vie est aux antipodes de ce qu'on lit dans la parole de Dieu. La joie est un fruit de l'esprit, donc est un fruit de la présence du Saint-Esprit. Faut-il que la personne dont on parle, les personnes dont on parle, aient reçu le Saint-Esprit ? Faut-il que ces personnes se soient mises en règle avec Dieu, sincèrement, droitement, conformément aux Écritures, et aient reçu le Saint-Esprit, pour que le Saint-Esprit puisse agir dans le cœur de cette personne et porter du fruit si cette personne ne résiste pas à l'Esprit. Et donc il nous a dit, si nous demeurons en Christ, Jésus dit demeurez en Christ, si nous demeurons en Christ, si nous n'attristons pas l'Esprit, comme il nous est dit en Éphésiens chapitre 4 verset 30, il nous dit n'attristez pas le Saint-Esprit. Si nous n'éteignons pas le Saint-Esprit, car c'est possible, dans cette même épître de Paul aux Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens 5, 19, il est dit, n'éteignez pas le Saint-Esprit. C'est possible. Le Saint-Esprit se fait tout petit. Il ne va pas partir, mais il se fait tout petit. Si nous faisons ces choses, nous demeurons donc en Jésus-Christ, nous n'attristons pas le Saint-Esprit, nous n'éteignons pas le Saint-Esprit, mais au contraire, nous laissons agir et s'exprimer en nous la joie, fruit de la présence du Saint-Esprit, peut s'exprimer, de même que les autres qualités qui sont énumérées en Galates chapitre 5, verset 22, donc le fruit du Saint-Esprit. Donc l'enthousiasme, la joie, en fait ça devrait être la marque, c'est la marque de la présence du Saint-Esprit dans une vie, dans un chrétien si vous voulez. Ça devrait être la caractéristique d'un disciple de Jésus-Christ. Mais c'est vrai que nous sommes tous pécheurs, et nous laissons tous facilement, plus ou moins facilement, un certain nombre de choses mettre à mal notre enthousiasme ou notre joie. Nous avons certainement tous expérimenté des contrariétés, des voitures qui ne veulent pas démarrer par exemple, des soucis. Même à l'école, j'ai pas assez étudié ou j'ai pas eu assez de temps pour étudier. De la fatigue, surtout quand les années commencent à s'accumuler. Des épreuves, des pensées qui peuvent être revenir sans arrêt, être presque obsédantes. Des péchés, la maladie, toutes ces choses peuvent affecter, mettre à mal ou même enlever notre enthousiasme, notre joie. Cela dit, il y a des situations qui sont favorables pour manifester, qui nous aident en fait à manifester la joie dans le Seigneur. Il y a des épreuves, etc., mais il y a des moments où on peut laisser facilement de côté les problèmes, les soucis, les fatigues, les maladies, etc. Ne serait-ce que l'espace de quelques instants, quelques heures, quelques journées, etc. Et je vous avais listé trois exemples, mais il y en a certainement beaucoup d'autres. Par exemple, lorsque nous sommes entre chrétiens, ou même seuls, et que nous avons à cœur de louer le Seigneur, dans la louange du Seigneur, on détourne nos regards de nous-mêmes pour tourner les regards vers le Seigneur, avec plus ou moins d'intensité, de communion avec le Seigneur. Quand on prie ou on chante au Seigneur dans la louange, forcément des choses concernant le Seigneur nous reviennent à cœur et sont de nature à nous remplir de joie. Peut-être que vous avez entendu Robert Bixby vous dire, mais quand vous chantez au Seigneur, s'il y a de la joie dans votre cœur, il faudrait que ça s'exprime un petit peu. Naturellement, sans forcer. Mais c'est bon. Et c'est normal, parce que quand on pense à tout ce que le Seigneur a fait pour nous, ce qu'il est pour nous, il y a de la joie qui sort. Et là, c'est chanter des louanges, prier, louer le Seigneur, adorer le Seigneur, c'est quelque chose qui nous aide à être joyeux, à exprimer ce fruit de l'esprit, la joie. Il y a un deuxième aspect, un deuxième exemple de situation qui, je vous avais mentionné, c'est ce dont je voudrais parler aujourd'hui, ce sont les offrandes que l'on fait au Seigneur. Étant donné tout ce que le Seigneur a fait pour nous, tout ce qu'il nous a aimé, le jour où on a pris conscience, on a réalisé, avant nous étions dans les ténèbres, comme disait Lala, peut-être, ou David, si nous avons réalisé, si nous avons expérimenté cela, une rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus, il y a un avant où on ne se préoccupait pas de la parole de Dieu, de Jésus, de Dieu, de quoi que ce soit. Et puis tout d'un coup, il y a une rencontre qui s'est faite sur la base des Écritures, une vie changée, transformée. En pensant à tout ce que le Seigneur a fait pour nous, il y a une joie à faire des offrandes au Seigneur. Enfin, une joie qui devrait être présente. Parce que le Seigneur est généreux et son esprit en nous est un esprit de générosité aussi. Alors, nous savons que Jésus, quand on lit sa parole, quand on découvre sa parole, il est fascinant, il est merveilleux. En considérant tout ce qu'il a fait pour nous, lié à sa personne, etc., c'est vrai que nous voulons manifester notre reconnaissance. Comme dit Jean dans la première épître de Jean, au chapitre 4, verset 19, il dit « Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Lorsque nous n'étions pas aimables, nous n'étions pécheurs, nous ne nous occupions pas de Dieu, le Seigneur a manifesté son amour envers nous, sa patience, et il s'est révélé à nous et nous a attirés à lui. » Et donc nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Et il y a un autre passage qui est très intéressant dans la parole qui nous dit, qui est rapporté par Luc dans le livre des Actes. Et Luc se souvient de ce que Paul a dit venant du Seigneur, c'est Actes chapitre 20 verset 35. Cette grande vérité universelle, ce principe de fonctionnement du monde dans lequel nous sommes. Jésus a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est pour cette raison que lui s'est donné et qu'il donne. Parce qu'il y a un bonheur qui est accessible uniquement en se donnant ou en donnant. C'est le contraire de Hollywood. Hollywood, c'est, il y a plus de bonheur à recevoir qu'à donner. Mais la parole de Dieu nous prend un contre-pied dans nos tendances naturelles. Et Dieu nous fait savoir qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et cette loi universelle, les Français connaissent bien cette loi. Et si vous êtes arrivé en France récemment ou il y a longtemps, vous avez certainement entendu des Français qui disent « Quand on aime, on ne compte pas ». Bon, je sais qu'il y a beaucoup d'égoïsme en ce moment, mais on entend encore ça. Et c'est l'expression de cette loi universelle. C'est un petit peu différent, mais quand on aime, on ne compte pas. On est généreux, on donne. Et c'est la même chose, à peu près la même chose que ce que Jésus a dit. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et Jésus a eu de la joie à se préparer un peuple qui le serve, qui l'adore, qui marche avec lui, qui passera l'éternité avec lui en se donnant lui-même, en s'offrant en sacrifice pour nos péchés, à cause de nos péchés, pour que nous puissions être pardonnés sur la base de son sacrifice à la croix. Et si nous avons cru en Jésus, c'est mon cas, c'est le cas de beaucoup d'entre nous, si nous avons reçu Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur personnel, nous avons reçu son Esprit qui est le gage de notre salut. Et c'est le Saint-Esprit qui nous assure que nous sommes enfants de Dieu. Ce n'est pas un sentiment, une idée intellectuelle. Non, c'est la présence de Dieu lui-même dans le cœur, dans notre cœur, qui nous donne l'assurance que nous sommes sauvés. Et qui nous donne aussi la joie, et la joie de lui offrir des offrandes en retour. Alors peut-être vous demandez-vous, mais est-ce que Jésus nous a laissé quelques enseignements sur les offrandes, sur l'argent, etc. Alors, le sujet est vaste, sur les offrandes, et je vais simplement commencer à l'aborder en ce jour, en examinant avec vous trois enseignements que le Seigneur Jésus nous a donnés sur le sujet de l'argent et des offrandes. Ça va poser le décor, et une autre fois, je ne sais pas, là, je ne me souviens plus à quel moment je reviens parmi vous, mais on en rentrera un petit peu plus dans le détail. Alors ce matin, je voudrais donc attirer votre attention sur trois enseignements du Seigneur Jésus, dont deux pour commencer dans le sermon sur la montagne. Si vous tournez avec moi en Matthieu chapitre 6, Matthieu chapitre 6, et nous allons regarder juste trois versets. Excusez-moi, je commence à avoir très très chaud. Dans le sermon sur la montagne, donc on est au début du ministère terrestre du Seigneur Jésus. En Matthieu chapitre 6, verset 19, Jésus dit, ces paroles assez étonnantes, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Je ne sais pas si vous vous êtes arrêté sur ce passage régulièrement, souvent. C'est un passage assez étonnant, car le Seigneur dit, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Notre tendance naturelle à chacun, je crois que c'est vrai pour les enfants comme pour les adultes, c'est d'amasser des choses, naturellement, dans nos maisons, dans nos lieux d'habitation, dans nos tiroirs, dans nos poches, etc. On amasse des choses auxquelles on tient, c'est un petit peu comme nos trésors sur la terre. Or, de façon manifeste, surtout pour ceux qui sont allés déjà assister à des enterrements, aucune des choses matérielles que nous accumulons ne va au ciel. Derrière un corbillard, il n'y a jamais un camion avec des valises. On sourit tous, hein. Mais néanmoins, sachant cela et ne sachant pas quand le Seigneur va nous reprendre, et vous en savez quelque chose avec le départ totalement inattendu de Robert Bisby, nous accumulons des choses néanmoins. Alors, on n'a peut-être pas loué le camion pour mettre les valises dedans, mais les valises se remplissent petit à petit. Et je fais la même chose, hein. On a besoin de ceci, on a besoin de cela. Puis le monde nous convainc qu'on a besoin du dernier cri smartphone, du dernier ordinateur, du dernier machin. Tu vois des personnes qui se regardent, là. Qui est-ce qui a eu dernièrement ou la semaine dernière un nouveau smartphone? Non. 1 Timothée chapitre 6, verset 7, Paul dit, et vous l'avez certainement lu collectivement récemment, que Paul dit à Timothée, il rappelle à Timothée, mais car nous n'avons rien apporté dans le monde, mais nous sommes venus, hein, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Alors qu'a donc voulu dire le Seigneur Jésus par « amassez-vous des trésors » parlant d'argent, de trésors, de choses qu'on peut avoir à cœur. Qu'a voulu dire le Seigneur Jésus par « amassez-vous des trésors dans le ciel » Je ne sais pas si vous êtes arrêté sur... je crois que nous connaissons tous ce passage. « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre et amassez-vous des trésors dans le ciel. » J'avoue que je ne me suis jamais trop arrêté là-dessus. je ne sais pas vous, que sont ces trésors dont parle Jésus? La parole de Dieu nous révèle que seule la partie invisible, immatérielle des êtres humains, les créatures de Dieu, hein, créées à l'image de Dieu, peuvent aller au ciel. Jésus a dit « Amassez-vous des trésors dans le ciel ». Nous savons que par la parole de Dieu, seule la partie immatérielle, l'âme des êtres humains, des créatures que nous sommes, peuvent aller dans le ciel. Et Jésus dit « Amassez-vous des trésors dans le ciel ». Tout le reste qui est matériel, que nous accumulons ici-bas, reste ici-bas. Et si on met tout ça ensemble, on se rend compte que, de façon précise, seules les âmes qui sont en règle avec le Seigneur Jésus peuvent aller au ciel et iront au ciel, vont au ciel. Seules les âmes en règle avec le Seigneur Jésus iront au ciel ou vont au ciel. Et si on se souvient que dans le psaume 49, versets 8 et 9, il est dit « Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre ». Le rachat de leur âme, à cause des péchés, le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu pour ceux qui ne se mettent pas en règle avec leur Créateur, avec Jésus-Christ. On comprend donc que comme le Seigneur Jésus, au tout début de son ministère, dans le serment sur la montagne, il dit en passant, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. » Les seuls trésors dont il parle, ce sont des âmes qui ont besoin d'entendre l'Évangile, qui ont besoin de se mettre en règle avec Dieu, avec leur Créateur, pour pouvoir entrer dans le ciel. Par ce passage de Matthieu chapitre 6, versets 19 et 21, qui apparemment parle de trésors, d'argent, etc., nous voyons que le Seigneur Jésus, en fait, conseille à ses disciples, amassez-vous des trésors dans le ciel. Il exhorte même peut-être ses disciples à orienter leur vie vers tout ce qui va envoyer des âmes au ciel. Qui sont les vrais trésors aux yeux de Dieu, les créatures de Dieu, la partie immatérielle de chaque être humain. Il est clair que Jésus, ici, dans ce passage, parle de façon un peu mystérieuse. En fait, en parlant comme cela, je suis convaincu que les disciples, les douze, on est pendant les trois années de ministère, au début des trois années de ministère du Seigneur Jésus, la Pentecôte n'a pas encore eu lieu, le Saint-Esprit près d'eux leur donne de comprendre des choses, mais le Saint-Esprit n'est pas encore en eux. Ça s'est passé à la Pentecôte. Et je suis convaincu que les disciples ont entendu ces choses, c'est rentré comme ça et ça a dû sortir. Il a fallu que le Saint-Esprit leur rappelle ces choses. Qu'ont-ils compris de cette parole du Seigneur Jésus « Amassez-vous des trésors dans le ciel » Je ne pense pas qu'ils ont dû comprendre grand-chose sur le moment. Et quand je me rends compte que je ne me suis jamais trop arrêté sur le sens de ce verset, je crois qu'il faut s'y arrêter. Il faut s'arrêter sur cette expression un peu mystérieuse qui suscite la curiosité pour celui qui est curieux, pour celui qui est spirituellement curieux. Êtes-vous spirituellement curieux dans les Écritures? Est-ce que vous cherchez? Est-ce que vous prenez une concordance? Est-ce que vous étudiez les Écritures pour comprendre ne serait-ce que les paroles de Jésus dans les Évangiles et découvrir lorsqu'il illumine par son esprit, il nous illumine pour comprendre plus profondément la parole, est-ce qu'il vous nourrit? Est-ce qu'il vous réjouit? Et le monde, et le prince de ce monde, Satan, fait tout pour qu'on n'ait pas le temps. Et je vois ça dans ma vie. Et c'est tellement précieux. Permettez-moi de reprendre des mots de Jésus et de dire la chose suivante. Je crois qu'à la lumière de ce passage, on peut dire, pour celui qui a des oreilles pour entendre, et pour celui qui a des yeux pour voir, pour celui qui cherche spirituellement, ces paroles de Jésus sont une invitation, pour ne pas dire un commandement, à investir notre temps, nos talents, et même notre argent, pour annoncer l'Évangile, afin que des âmes soient délivrées de la condamnation qui pèse sur leur conscience, sur leur âme, et que la juste condamnation ne tombe de divine, ne tombe pas sur eux, mais qu'en fait, ces personnes comprennent que la condamnation de leur péché est tombée sur Jésus-Christ, leur substitut, il y a 2000 ans à Golgotha, et qu'ils placent toute leur confiance en Jésus, afin d'être sauvé de cette condamnation et d'aller au ciel. Et il y a beaucoup de joie à voir des personnes, des âmes, se tourner vers Dieu et ainsi d'amasser des trésors dans le ciel, car seules des âmes sauvées iront dans le ciel. Il y a beaucoup de joie à voir des personnes, fruits de notre témoignage, aussi misérable soit-il, fruits de nos efforts, de nos prières, réponse à nos prières. Il y a beaucoup de joie à voir des personnes se tourner vers le Seigneur et être parmi ces trésors qui vont aller dans le ciel. Et nos talents peuvent y participer, notre temps peut y participer pour annoncer nous-mêmes l'Évangile, faire connaître l'Évangile à ceux qui sont perdus. Et nous avons abondamment le choix en France de la région, et puis si vous êtes dans une foule, vous vous tournez dans tous les sens, et il ne faut pas hésiter, hein, parce qu'il y a beaucoup de choix. Il n'y a pas besoin de chercher longtemps pour trouver des perdus. Trouver des enfants de paix qui vont recevoir l'Évangile, qui auront une oreille attentive, ça sera plus difficile, c'est vrai. Mais nous pouvons aussi investir de notre argent, et soit pour acheter des traités, soit pour soutenir des missionnaires, soit pour préparer l'envoi de missionnaires, etc. On peut orienter sa vie dans ce sens. Et je répète ce que le Seigneur Jésus dit ici, dans le sermon sur la montagne, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Et il dit, verset 21, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Vous amassez-vous des trésors dans le ciel? Cherchez-vous à amasser des trésors dans le ciel? Allez-vous à la pêche aux âmes perdues pour leur annoncer l'Évangile? Avez-vous résolu dans votre cœur de chercher à faire ce que le Seigneur a conseillé ou a commandé, si vous voulez le prendre comme ça, de vous amasser des trésors dans le ciel? Peut-être qu'aujourd'hui, c'est un jour pour prendre un engagement solennel devant le Seigneur. Je veux désormais amasser des trésors dans le ciel. Je veux annoncer l'évangile le plus possible. Seigneur, aide-moi. Seigneur, ouvre-moi des portes. Seigneur, mets dans la bouche de ceux qui m'entourent des questions qui vont m'aider. Hier, dans ce mariage auprès de Niort, je parlais avec un couple. Le jeune homme est handicapé sur une chaise roulante. En fait, j'ai prié pour lui il y a 18 ans lorsque j'étais à l'Institut biblique où Robert Bixby enseignait. Et ce jeune homme, c'était le neveu d'un autre étudiant, Mathieu. À 17-18 ans, il se droguait. Et en étant un peu drogué, et rebelle bien sûr, dans une famille chrétienne, il est monté sur un arbre, assez haut, et il est tombé de l'arbre. Et il s'est cassé la colonne vertébrale. 18 ans après, il est toujours sur un fauteuil roulant. Mais grâce à Dieu, le Seigneur a mis sur son chemin un pizzaiolo. Albert a été pizzaiolo. Et c'est un pizzaiolo chrétien qui lui disait, Mathieu, il faut te tourner vers le Seigneur Jésus, tu es handicapé, tu as fait des bêtises, etc. Mais tourne-toi vers lui et tes péchés seront pardonnés. Demande-lui pardon pour eux, pour tes péchés. Et il l'a fait. Et il a épousé une très gentille jeune femme qui est infirmière à Orthès, pas très loin de chez nous, 45 minutes de chez nous. Et en fait, je voulais parler de cette jeune femme qui m'a dit, qui est infirmière, et elle me dit, mais c'est très difficile de travailler, d'annoncer l'évangile dans les lieux publics, comme l'hôpital où elle travaille. Et je lui dis, non, il ne faut pas partir comme ça. C'est vrai que ce n'est pas facile, hein. Elle me disait, en fait, on ne peut pas. Et je lui dis, non, on prie, on demande au Seigneur d'ouvrir les portes. Et je lui ai raconté l'histoire rapide hein, d'un médecin américain, Dr. Walter Wilson, qui est un médecin qui passait une heure tous les matins à genoux dans son bureau à supplier le Seigneur de lui envoyer des patients qui poseraient des questions sur l'au-delà, sur la souffrance, le sens de la souffrance, etc. Et lui, il n'avait plus qu'à répondre. On pose des questions, ben on répond. Aujourd'hui, c'est peut-être le jour pour vous pour crier au Seigneur, ou pour vous engager devant le Seigneur, en disant, Seigneur, je ne veux pas amasser des trésors sur la terre. On le fait tous, certes, mais je veux amasser des trésors dans le ciel. Conduis-moi vers des hommes perdus. Mets des paroles dans ma bouche. Instruis-moi, enseigne-moi, utilise-moi, pour que j'aie des trésors dans le ciel, des merveilles, des âmes sauvées. C'est ce que le Seigneur nous demande de faire. Et on est dans un pays qui n'est pas facile. Mais le premier siècle n'est pas facile. N'était pas facile. Lisez, relisez les actes. Lisez toutes les persécutions que Paul et Silas, Paul et Barnabas ont subies. Et les autres. Et néanmoins, le livre des actes, c'est un livre de la joie. Si vous soulignez à l'Institut biblique que je mentionnais tout à l'heure, j'ai eu un devoir sur le thème de la joie dans les actes. Et moi, dans mes lectures, j'avais peut-être lu 10 ou 12 fois les actes, j'avais jamais vu la joie. Je dis, il n'y a pas de joie dans les actes, il y a la persécution. Et j'ai dû faire un devoir sur la joie dans les actes. Et je peux vous assurer que j'étais étonné de trouver la joie dans les actes, malgré la persécution, presque dans toutes les pages. Le Seigneur a des choses en réserve pour nous. Ça, c'est un premier enseignement de le Seigneur Jésus dans le Sermon sur la montagne. Je voudrais qu'on passe à un deuxième enseignement, un peu toujours sur ce thème, et je vous invite à tourner en Luc chapitre 6. C'est toujours le Sermon sur la montagne, mais c'est rapporté en Luc 6. Luc chapitre 6, et nous allons lire juste un verset. Quelqu'un a une suggestion de verset dans Luc 6 sur le thème des offrandes? Non? Verset 38. Luc, chapitre 6, verset 38. Le Seigneur est toujours sur cette montagne. Il fait ce serment à ses disciples. Et on est au début de son ministère, et en passant, il leur dit la chose suivante. Alors, je ne sais pas si vous êtes fort en grammaire, mais c'est toujours l'impératif qui vient. Hein. Donnez, et il vous sera donné. Souvenez-vous, acte 20, 35. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Parole du Seigneur Jésus. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et là, le Seigneur dit à ses disciples, donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. C'est intéressant que dans ce passage, le Seigneur Jésus nous interpelle à nous, à moi, premièrement, puisque je lis, à vous, puisque vous lisez avec moi, silencieusement. Il nous interpelle, il nous dit, vous, donnez, donnez. Et regardez que, il continue de façon impersonnelle. Il ne dit pas qui va rendre. En quelque sorte, il dit, donnez et il vous sera donné. Par qui? Par le Seigneur, par qui il choisira. Et si vous donnez, il vous sera donné. Et on versera, alors il y a des précisions ici, on versera dans votre sein, dans votre portefeuille, hein, si vous comprenez, hein. Votre porte-monnaie, portefeuille, directement. On y versera, donc, compte en banque, si vous voulez, ça tombera. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, qui déborde. Je ne sais pas si vous avez été au marché, acheter des haricots, des patates, etc. Mais les marchands locaux, pas trop, peut-être moins les distributeurs, mais quoi que les distributeurs aussi, les producteurs, souvent, quand vous leur demandez 2 kilos de patates, ils vous servent 2 kilos avec l'équilibre sur la balance pour 2 kilos. Et puis, souvent, je ne sais pas si vous avez entendu ça, mais ils vous rajoutent 2 patates ou 3, ils disent bon poids. Et c'est ça. Serré, secoué, on passe, et qui déborde, on en rajoute. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Et il est manifeste que Dieu est généreux. Nous savons par la parole, et on l'a peut-être expérimenté, que Dieu est généreux, et sa générosité, il l'a prouvé à la croix, il a manifesté son amour par la générosité, par le don de son Fils Jésus-Christ. Et il nous fait savoir ici, à nous pécheurs, une vérité qui est de nature à nous interpeller, qui n'est pas facile à lire, et qui peut être même difficile à encaisser, ou à digérer, ou à méditer. Jésus fait savoir à ses disciples, et nous fait savoir si nous sommes disciples de Jésus-Christ, mais en fait c'est une loi universelle du Créateur vis-à-vis de ses créatures. Il donne en fonction de ce que nous donnons. Il est généreux en fonction de notre générosité. Il exerce sa générosité à l'image de notre générosité. Ce passage fait penser à un verset dans Jacques, au chapitre 4, verset 8, qui nous donne un peu ce principe. Jacques, frère du Seigneur, nous rappelle en nous disant, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. En quelque sorte, faites un pas, lui en fera deux. En 2 Corinthiens chapitre 9, verset 6, Paul aussi, qui n'était pas soutenu par les Corinthiens et qui se réjouissait de ne rien leur devoir, leur dit avec liberté en 2 Corinthiens chapitre 9 verset 6, sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Ça s'applique à l'évangélisation, ça s'applique aux offrandes, ça s'applique à beaucoup de choses. Et aux Philippiens, qui étaient extrêmement généreux vis-à-vis de l'apôtre Paul, ces Philippiens qui ont pourvu aux besoins de l'apôtre Paul, en Philippiens 4, verset 19, Paul écrira, « Mais mon Dieu pourvoira tous vos besoins,
Paul avait reçu abondamment les Philippiens, et à cause de cela, à cause de l'abondance des dons des Philippiens, qui étaient pas riches, hein, mais qui mettaient Dieu en premier, même sur leur portefeuille, eh bien, Paul a pu leur dire, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Et c'est dans ce contexte. On cite souvent ce, ou peut-être que vous avez entendu ce verset, Philippiens 4, 19, pour l'abondance, la générosité de Dieu, mais dans ce contexte, elle est avec des Philippiens qui étaient extrêmement généreux vis-à-vis de l'apôtre Paul. L'un ne va pas sans l'autre. Dieu le met en point, il est fidèle, il est généreux, mais au travers de ce passage, de cet enseignement du Seigneur Jésus, nous voyons qu'il exerce sa générosité en fonction de notre, de ma générosité, de votre générosité. Et vous savez, certainement comme moi, qu'en France, nous ne parlons pas beaucoup, ou pas facilement d'argent. L'argent que nous gagnons, dont nous disposons, c'est un sujet tabou en France. Mais individuellement, nous y pensons tous. Nous avons besoin de joindre les deux bouts, de vivre avec l'argent que nous avons. Et il est bon, à la lumière de ces textes, d'examiner nos cœurs. Et notamment avant de faire une grimace, et ça m'arrive de faire une grimace en constatant que la fin de mois va être difficile. Et parfois, j'ai le sentiment que je n'ai pas assez reçu, que je n'ai pas assez d'argent à ma disposition. Et je crois qu'on a tous fait cette expérience où on est juste financièrement, où on a fait des extras et on se trouve juste financièrement. Mais là, nous devrions nous arrêter, comme dit le psaume 46, verset 11, et savoir que Dieu est Dieu. C'est lui qui pourvoit. Mais avons-nous été généreux avec lui? L'avons-nous mis à la première place financièrement dans notre vie? Parce que lui, il nous fait savoir, donnez et il vous sera donné. Il ne dit pas systématiquement, mais c'est un grand principe d'action de Dieu. Il vous sera donné, on versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée, qui déborde, quand on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Je crois avoir raconté ce que je vais vous raconter brièvement avant de terminer là. Et je le répète, au cas où certains ne l'auraient pas entendu. Lorsque nous sommes mariés, Valérie et moi, nous sommes partis aux États-Unis pour vivre pendant 3 ans et demi pour rassembler du soutien d'églises baptistes là-bas, puisque nous sommes missionnaires en Pays Basque, envoyés par des églises américaines. Et nous avions à peu près, je crois, l'équivalent de 600 euros par mois, avec quelques soutiens, pour vivre. Et aux États-Unis, la vie est très peu chère, mais on dépense facilement beaucoup. Et il fallait payer l'assurance de la voiture, l'essence, avec une voiture qui consommait 24 litres au 100, je crois. Une grosse voiture de 300 000 km. Il coulait très bien. Il fallait acheter à manger, etc. Et mon réflexe naturel, ça a été de dire on n'a pas assez, donc on ne donne rien pour le Seigneur. Et ainsi, 1 ou 2 mois se sont écoulés, mais pendant ces 1 ou 2 mois, en visitant plusieurs églises, parce que nous visitions chaque dimanche des églises, j'ai entendu quasiment en 3 semaines 3 messages sur le sujet des offrandes, et pratiquement les 3 prédicateurs qui se connaissaient pratiquement pas, ont prêché à peu près la même chose, en disant qu'il y a 3 façons d'adorer le Seigneur. Et moi, sortant de l'Institut biblique, je réfléchissais, voilà. Et évidemment, par les chants, c'est ce qu'ont dit les prédicateurs, par la prière, par nos louanges, par notre bouche. Ok, c'est la deuxième fois. Et deuxième façon, puis je me dis, mais et la troisième? Et ils ne savaient pas.
Et les trois prédicateurs ont dit la même chose. Par nos offrandes. Parce que les offrandes sont une manifestation tangible de notre amour en retour pour le Seigneur. Son amour pour lui s'est manifesté, se manifeste par les largesses qu'il nous fait, il nous donne les pourvois pour vivre, mais il s'est offert lui-même à la croix pour nous. C'est tangible, c'est un amour qui est tangible. C'est pas des sentiments uniquement. Il y a des sentiments, mais il n'y a pas que ça. Et tout d'un coup, je me suis rendu compte que je n'avais pas mis le Seigneur Jésus à la première place dans mes finances. J'avais peu d'argent, mais je n'avais pas fait confiance. Et avec Valérie, on a décidé de systématiquement, dès le début du mois, de donner au moins 10%. Vous avez entendu parler de dîmes, hein, on en parlera une autre fois, mais de donner 10% au Seigneur, et même plus. Et c'était les premiers mois de notre séjour aux États-Unis, on avait très très peu d'invitations pour parler dans des églises et pour leur présenter notre projet missionnaire. Le jour, à partir du jour où nous avons pris cette décision de donner au Seigneur, d'abord, dès qu'on reçoit quelque chose, donner sa part au Seigneur, les portes sont ouvertes et on n'a pas arrêté d'avoir des invitations. Ça a été une merveilleuse leçon. J'en remercie le Seigneur, je n'aurais pas voulu attendre 20 ans pour avoir cette leçon. Il a commencé par cela. Le Seigneur est généreux et il veut faire des choses, il veut manifester sa générosité, mais nous, qu'en faisons-nous? Sommes-nous généreux nous-mêmes? Ayant l'esprit de Jésus-Christ, si on a l'esprit de Jésus-Christ, manifestons-nous notre générosité envers le Seigneur. 2 Corinthiens chapitre 9, versets 7 et 8 nous rappellent que les offrandes sont une preuve tangible de notre amour pour Dieu. En France, c'est difficile. Dans les pays latins, imprégnés de catholicisme, souvent, c'est très difficile, on a du mal avec ça. Mais quand un cœur est circoncis et habité par le Saint-Esprit, nous pouvons, avec joie, donner la preuve de notre amour au Seigneur et lui offrir en retour des offrandes. Je ne sais pas quelles sont les offrandes que vous avez faites aujourd'hui, je ne connais pas vos richesses, vos difficultés financières, mais peu importe, on est tous dans le même bain, le Seigneur nous appelle à donner généreusement, afin que lui pourvoie aussi généreusement. Et je vais conclure en vous laissant un troisième enseignement très bref de la part du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus nous montre que vis-à-vis de ceux qui donnent, il bénit abondamment. Si vous notez quelques passages, je vous encourage à lire dans l'Ancien Testament 1 Chronique chapitre 29, notamment de verset 6 au verset 9. C'est la joie de David et de tout le peuple d'Israël à cause des offrandes qui ont été faites pour le temple, pour la construction du temple. Les offrandes ont dépassé ce qu'ils attendaient. Ils ont été obligés de refuser les choses. Et si vous lisez tout le chapitre 29 de 1 Chronique, vous verrez que trois choses vont ensemble. C'est la joie, l'unité du peuple et les louanges, bien sûr, et les offrandes. Ça en fait quatre, en fait. La joie dans l'unité, dans la louange, et dans les offrandes. C'est un exemple de l'Ancien Testament. Et si vous allez dans le Nouveau Testament, vous verrez en acte 2, au moment de la Pentecôte, versets 44 à 47, la joie des 3000 qui sont sauvés le jour de la Pentecôte, l'unité et la communion fraternelle qui en résulte, et toutes les offrandes qu'ils font, ils mettent leurs biens en partage. Ils font des offrandes à Dieu, mais aussi pour pouvoir avoir besoin des uns des autres. Connaissez-vous cette joie? Cette joie qui est immense, qui est une joie dans l'unité de l'amour de Dieu, dans l'expression des louanges, dans le fait de donner, parce qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Que le Seigneur, en cet été chaud, le Seigneur est généreux avec nous, il nous donne réchauffement climatique ou pas, et il nous donne un pour l'instant en tout cas un été chaud. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, vous donne de méditer sur ces choses, ces quelques enseignements concernant les trésors qu'il nous accorde ici-bas et la gestion de ces trésors avec les conseils ou les exhortations, voire les commandements que le Seigneur Jésus nous laisse. Souvenez-vous, amassez-vous des trésors dans le ciel. Souvenons-nous, amassons-nous des trésors dans le ciel. Souvenons-nous de donner généreusement parce que le Seigneur lui-même nous donne en rapport avec notre générosité. Et dans la générosité partagée, la joie peut exulter.